regarde comme elle est contente.
Hein, oui, pourquoi elle est contente?
Bah, oui, pourquoi?
Ouais, c'est ça, l'invité, elle a mis des posters de lui partout. Là.
C'est pas moi.
Comme par hasard, Patrick.
J'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas la Bruelmania non plus.
T'arrêtes, j'ai ouvert le courrier ce matin, il y a des places pour 3 concerts différents de Patrick.
Mais c'est pas moi.
Mais bien sûr, madame, ça fait une deuxième adolescence.
Non, mais Guillaume, arrête, t'es jaloux, ça se sent.
Le disque, là, le nouveau, il est usé tellement tu l'as écouté.
Mais c'est pas vrai.
Le livret, tout est souligné, il y a des cœurs sur les mots, ça va pas être une interview, ça va être une agiographie, là.
Mais arrête, c'est même pas moi qui fais l'interview, c'est Alex.
C'est Alex?
Oui.
Oui.
Quoi?
Oui, bah la chanson française, c'est Alex, hein, le type est fan de tout le monde, de Marcel Amont à Vianney, alors
mais
évidemment.
Alex, c'est Alex, les posters et tout, Alex.
Mais oui, mais c'est pour qu'on soit dans une bonne ambiance. Voilà.
À ton âge, les posters, mais t'as pas le droit.
Non, oui, mais qui a le droit?
Non, non, ça va. Bon, et les concerts, alors?
Les concerts, oui, bah oui.
Alex, je devrais pas te dire ça. Hein.
Mais je te le dis quand même.
Oui, ça va. Guillaume, en fait, il aime beaucoup trop Patrick Bruel.
Non, mais sois honnête, Alex, t'es fan, en fait.
Je te mentirais. Et même moi, je me suis menti.
On l'a perdu.
Tu me crois tellement.
Non, on l'a perdu.
Complètement.
Je voulais juste dire, dans le livret, c'est pas des cœurs, c'est des ronds, quoi.
Ouais, c'est ça. Bonjour la France Inter, dont la Nouvelle-Calédonie. Vous écoutez la start-up radiophonique. Voici les 3 actualités en itinérance jusqu'à 18h. Les Néo-Calédoniens devaient dire oui ou non à l'indépendance. La majorité du Caillou veut rester français, évidemment, puisque les Kanaks sont en minorité sur l'île. Cela dit, le chemin vers l'indépendance progresse grâce à une campagne rondement menée.
Win the yes needs a no to win. Again the no.
Les familles aisées réclament des nounous haut de gamme. Le minimum bac plus 5 est requis pour aller chercher les mioches à l'école. Bah, on sait jamais qu'il y a un changement de bus. Donc, faut pas le louper, je veux dire.
Ouais, je garde son gosse là. Ouais, arrête. Non, ça va, ça va. Enfin, j'ai un peu l'impression de me promener avec un nain bourré, mais ça va.
Une école de la chanson française a ouvert ses portes. L'idée, c'est de former des artistes au répertoire, des textes du Moyen-Âge jusqu'à Jean-Jacques Goldman et Patrick Bruel, et tout ce qui existe entre les deux. Hein.
Tout de suite, on va écouter Gertrude Palu. Alors, Gertrude, c'est Paris-Fermagilly, c'est la rue des Villouettes. Hein.
Lui, il la connaît, Gertrude Palu,
bien sûr.
Il est comblé par cette spéciale chanson française
avec
et par
Ginette
notre invité.
Leclerc. Bonjour. Charline Vanhoenacker, j'ai une belle équipe évidemment. Aujourd'hui, obligatoire, 17h20. Celui qui utilise très souvent la citation « J'en ai marre de cette nana-là », c'est André Manoukian évidemment. Bonjour.
Bonjour, bonjour les amis, bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, j'ai parlé de notre invité. Pour ça, j'ai convoqué un philosophe que j'adore qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Il fallait ça au moins.
Il l'a demandé que vous le lâchiez un peu. D'ailleurs, il m'en a parlé. À 17h30, celui qui ne va pas se taire parce qu'il a mal aux yeux. Et d'ailleurs, sa chronique aurait pu s'appeler au lieu d'alors. Regarde, alors écoute.
Oh, c'est beau. Bonjour à tous. Et moi, c'était les vacances. Alors, je suis allé au grand rendez-vous des jouets avec plein d'enfants qui sont bien amusés.
Ouais, on s'est amusé à tirer sur les gens.
Les futurs chasseurs.
Et à 17h40, celle qu'on retrouve beaucoup moins au Café des Délices qu'au Bar des Déboires, c'est Juliette Arnaud. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde. De quoi est-ce qu'on parle, Alex?
J'aimerais bien le savoir.
Eh ben moi aussi. Non, c'est pas vrai. Du destin d'une femme.
Très bien.
Très bien. Vous avez encore 35 minutes pour choisir laquelle.
Je vais.
Et voici celui qui va présider cette séance. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
le procureur Patrick Bruel.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Patrick Bruel.
Merci, bonjour.
Par Jupiter. Nous vous recevons pour votre nouvel album qui s'appelle Ce soir on sort, qui est sorti le 2 novembre, donc c'est tout frais. Et pour une très très grande tournée qui est déjà un peu pas mal complète. Hein. Alors,
mais des dates se rajoutent.
Il y a des dates qui se rajoutent. Vous passez par... restez avec nous, je vais vous le dire. Vous le saurez. Nous avons écouté votre album et celui qui l'a écouté avec l'oreille la plus fine, à part André Manoukian, c'est Alex Vizorek.
C'est vrai, moi j'aime beaucoup la chanson française. Ce que j'aime le plus dans la chanson française, c'est les auteurs, compositeurs, parfois interprètes, mais donc vous êtes tout. Et je me posais la question parce que vous êtes encore un des rares à avoir un public. Il y a des gens qui vont acheter le nouveau Bruel. Tous les chanteurs n'ont pas ça. Donc ça implique une vraie responsabilité. Comment vous travaillez le nouvel album, sachant que de toute façon, il va se retrouver dans énormément de mains et qu'il faut qu'il y ait des ingrédients qu'ils aient aimés avant, mais quand même du nouveau, parce qu'ils attendent du nouveau de vous aussi.
Mais je vais pas si loin. D'abord, je suis pas sûr qu'il va se retrouver dans énormément de mains, parce que le monde du disque n'est plus forcément ce qu'il était.
Il faudrait que vous en fassiez deux, trois mauvais pour que les gens n'aient pas envie d'écouter de nouveaux Bruel.
Et c'est pas encore arrivé. Qui n'était pas le cas.
Non, mais les deux précédents n'étaient pas.
C'est gentil. Non, en l'occurrence, j'avance sur les thèmes, les interrogations qui sont les miennes et les choses qui me touchent, les choses qui m'ont ému, bouleversé, touché, amusé durant ces 6 dernières années. On sort pas indemne de ces 6 ans, forcément. Les thèmes s'imposent à vous.
Des attentats à la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de thèmes de société.
Voilà, et puis il y a des choses plus légères, plus sympas, plus drôles, plus tout ce qu'on voudra. Mais en l'occurrence, une chanson, piano, voix, texte, guitare, voix, texte, et ensuite un costume. Et le costume doit corroborer le propos. Le costume va permettre d'aller un peu plus loin. Une chanson qui s'appelle Louise, par exemple, qui est sur l'enrôlement, sur les tragédies qu'on peut rencontrer sur Internet à travers ces défis absurdes. Ça part d'un piano-voix, mais ça se termine avec la complicité de Scalpovitch sur une production très urbaine et un truc très très fort. Et tout l'album est un peu construit comme ça, sur une cohérence entre les arrangements et ce qui est raconté. Après, est-ce que on s'interroge sur ce qui va plaire, ce qui va pas plaire?
Au-delà de ce qui va plaire, c'est quels ingrédients? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Il me faut 3-4 chansons sur l'air du temps, il me faut 3-4 chansons d'amour parce que voilà.
Mais je me le dis pas.
Il fait pas du 4/4, en plus.
Mais ça pourrait être le cas. Mais en l'occurrence, je pars de, pour arriver à 15 chansons, j'ai dû sacrifier peut-être 10, 15 autres chansons qui étaient presque prêtes pour être sur ce disque. À l'arrivée, le choix se fait, sur la qualité des chansons, à mon sens.
Ah, j'ai un tweet de Laetitia Hallyday qui demande si les 15 chansons que vous avez laissées sur le côté ne sont pas disponibles éventuellement.
mais c'est vrai que, à l'arrivée, je constate et je me dis, est-ce qu'il y a un peu trop de chansons sociétales, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de chansons festives, ou est-ce qu'il y a... Et finalement, l'équilibre était à peu près le bon.
Ouais, et c'est généreux, 15 chansons déjà. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui en font 10, qui en font 12, sachant qu'en plus, il y en avait 15 autres, donc il y en avait 30. Vous bossez, vous êtes un bosseur. Et ce que vous avez réussi, c'est ces incorporations légèrement électro qui vous vont super bien. Ça, c'est pas évident non plus comme virage, c'est-à-dire rester soi, avoir des chansons piano-voix avec ce grain de voix, et l'habillage, il est tellement bien fait qu'on le voit pas. C'est comme une femme qui disait le meilleur amant, c'est ceux qui vous font des trucs et après on sait pas ce qui s'est passé.
Et c'est un petit on savait que ça allait déraper.
Sinon, il y avait une question
d'Emma,
ça, en fait. Rien à voir, j'étais sûre.
Non, mais c'est une jolie analogie.
On s'en rend même pas compte, on analyse même pas. Putain, là, derrière, il y a une petite loupe électro et tout ça. Ça vous va tellement bien et c'est peut-être ça la recette de franchir les époques aussi.
C'est-à-dire qu'en fait, on a les oreilles grandes ouvertes, la musique elle est là, elle est partout, et il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous touchent, on n'en fait pas abstraction. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va aller chercher un style pour rentrer dans une époque ou pour rentrer dans un style. Bien sûr qu'on est, touché, la musique urbaine nous entoure, la musique pop électro nous entoure, j'ai envie qu'elle fasse partie de mon avancée, de mon propos, parce que je l'écoute, parce qu'elle me touche, parce que je me sens bien avec. Mais jamais il faut que ça fasse soit jeunisme, soit total look, soit pour être à la mode. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours été dans des styles différents, j'ai toujours eu des albums assez éclectiques, parce que j'ai grandi dans un univers éclectique. On écoutait chez moi quand j'étais petit, ça allait de Brassens à Gérard Lenormand, en passant par la musique classique, par le jazz. C'était ça aussi. Et aujourd'hui, cet album, oui, il est composé de choses très traditionnelles, comme j'ai toujours l'habitude de faire, des piano-voix, parce qu'une chanson comme J'ai croisé ton fils n'imposait pas un arrangement. C'était bien d'avoir juste un piano, une voix pour raconter cette histoire. Et puis une chanson comme Héros, ou une chanson comme Louise, c'est abstrait pour les gens, ils n'ont pas encore entendu.
On va l'écouter tout à l'heure avec André.
Héros, par exemple, on va écouter Héros, c'est vraiment, ça résume exactement ce qu'est cet album. C'est-à-dire, j'arrive avec cette chanson qui est un piano-voix, une valse qui parle de ces héros anonymes, de ces gens qu'on aurait envie de mettre un petit peu en lumière de temps en temps. Et à la fois, je vais voir Scalpovitch avec ça et je lui dis, j'aimerais voir ton univers là-dessus. Il me dit, mais c'est loin de chez moi. Je dis, non, imagine Kurt Weill qui aujourd'hui aurait tes moyens technologiques. Et ça lui a parlé. Et en très peu de temps, sur un laptop, il m'a proposé cette incroyable communion entre son univers et le mien. Et c'est une des chansons pour moi les plus réussies de cet album.
L'album qui s'appelle « Ce soir, on sort », qui est déjà disponible. Et puis une tournée qui passe notamment par Le Mans, par Caen, Rouen. Ça, ce sont des dates en mars. Il y a Tours, Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Chambéry. Je vous donnerai les dates
la France,
en avril.
La France entière, la Belgique, la Suisse.
Oui, la Belgique. Il y a une date à Forêt Nationale qui n'est pas complète. C'est le 16 mai à Bruxelles.
J'ai parlé des auteurs, compositeurs.
Parce qu'il y en a quatre autres qui sont complètes.
Oui, c'est ça.
Non, parce que ça fait un peu... Ça fait le pauvre mec qui n'a pas rempli Bruxelles.
Oui, mais enfin, la cinquième n'est pas complète, Patrick, je suis désolé. Ah oui, Patrick.
C'est pas que je sois aux aguets, hein, mais...
Vous êtes vigilants, vous faites bien. Vous écoutez Par Jupiter en attendant Anne Peebles.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
Patrick Bruel qui est avec nous sur France Inter, il passe par Pau le 2 mai.
Il a beaucoup de mal à remplir la zénith de Pau, donc si vous pouvez faire un petit effort.
Il est complet.
C'est complet aussi, alors tentez votre chance le lendemain à Bordeaux. Si c'est complet,
complet aussi, on a rajouté
tentez votre
date
chance
à Bordeaux.
Le lendemain à Toulouse, sinon il y a des nouvelles dates à Bordeaux. Voilà.
Allez sur le site et vous allez tout voir.
Patrick Bruel et son nouvel album, Ce soir, on sort, et pour l'entourer, Alex. Eh
ben, André Manoukian, qui en parlera? Guillaume Meurice qui est allé interroger des enfants.
Entre autres.
À propos de mon nouvel album?
Pas encore.
Ça me touche beaucoup.
Et Juliette Arnaud qui a lu un livre.
Sur les artistes qui remplissent pas les salles.
Sur mon album.
L'actualité.
Colomb Gérard, 41 voix, il est donc élu.
Je veux remercier
le journal. 17h17.
Et peut-être ai-je là pour l'avenir un sujet d'inspiration nouveau.
Et on commence par les titres.
Et oui, Gérard Collomb a été réélu maire de Lyon.
Oui, enfin plus précisément arrière-grand-mère de Lyon.
Interpellé au sujet de la hausse du prix des carburants, Emmanuel Macron a déclaré « J'assume parfaitement ».
Oui, en même temps, c'est facile d'assumer parfaitement quand tu ne la payes pas ton essence.
Et des brèves.
Le retour des brèves. Moi, je voulais arrêter Charline, mais le public l'a réclamé.
Je suis
désolé. Et on commence par notre président.
Qui a dit hier soir, je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail.
Oui, et vraisemblablement, il préfère toujours la taxation du carburant à la taxation des multinationales aussi.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a même été plus loin ce matin sur BFM. Il a dit, la hausse des taxes sur les carburants ne sera pas suspendue le 1er janvier prochain.
Ouh, méfie-toi mon Bruno, parce que vu comme c'est la grogne en ce moment, c'est peut-être toi qui ne vas pas être suspendu avant le 1er janvier prochain.
Notons qu'on en saura plus demain matin, car Emmanuel Macron sera interviewé par Nico Saliagas sur Europe 1.
Oui, et c'est cohérent qu'il aille sur Europe 1. Je trouve, entre gens qui n'arrêtent pas de perdre leur public, il le faut bien sûr comprendre.
Circulation.
C'est cadeau.
Toujours. Vendredi dernier, deux chèvres ont bloqué l'autoroute A46 pendant une heure dans le Rhône.
Et oui, heureusement qu'il n'y avait pas de chasseurs dans le coin, ils auraient été capables de tirer des automobilistes.
Passons à cet échange improbable entre Cyril Eldin de Canal+ et Edwy Plenel de Mediapart.
Exactement. Alors, il ne veut pas répondre à Cyril Eldin. Edwy Plenel, c'est une chose audible. Mais il lui reproche d'être présent et il termine par cette phrase.
L'humour, le divertissement et l'alibi de la haine. Et vous êtes le symbole de ça à la télé.
Et donc, c'est sans doute nous le symbole de ça à la radio. Alors, c'est vrai que venant de quelqu'un qui dirige les journalistes depuis 20 ans, et c'est vrai que la presse, elle a beaucoup aidé la France à ne pas faire le lit du fascisme.
Marseille, deux immeubles se sont effondrés dans le centre-ville, faisant au moins deux blessés légers.
Oui, Jean-Luc Mélenchon a encore dû claquer trop fort la porte.
Sport toujours. Les Football Leaks révèlent que l'AS Monaco s'est rendu coupable de financement occulte à l'aide d'un contrat de marketing fictif.
Oui, après tout, ce qui reste le plus fictif à Monaco, c'est les supporters, quand même.
Santé, les pesticides.
Blague pour les foot, ils n'ont pas pigé.
Moi, j'ai pas pigé.
Patrick et Guillaume ont pigé.
Ça donne envie de se renseigner. Hein, après. Santé, les pesticides contenant du méthane sodium sont définitivement interdits en France.
Oui, dommage qu'il n'y ait pas de méthane sodium dans les livres d'Éric Zemmour.
Attention, parce que vous faites le lit du fascisme.
Oui, ah bah, vous avez raison. Alors, le mieux, c'est peut-être d'organiser un grand débat entre Éric Zemmour et Edwy Plenel pour faire avancer la cause.
Passons à France Info qui a mené un véritable travail d'investigation journalistique et s'est posé cette question.
Quelles sont les chansons les plus jouées dans un crématorium?
Eh bien, parmi celles-ci...
c'est intéressant de le savoir. C'est pas votre dernier album, Patrick, je jure.
Parmi celles-ci, on retrouve « Puisque tu pars ».
Logique.
Ouais. « L'Ave Maria ».
Catholique.
Mais aussi « Allumer le feu ».
Pragmatique. Ah oui, si, c'est pragmatique. Bah, si. Alors, moi, je vous le dis, parce que comme ça, on le sait, on est au courant. Pour mes funérailles, moi, je voudrais ceci. Voilà, ça met une bonne ambiance.
Ça c'est dit.
C'est noté. Et des brèves.
Oui,
sûr.
Des brèves. Une lettre suicidaire de Charles Baudelaire a été vendue 180 000 euros. Alors si vous aimez les écrits suicidaires mais que vous n'avez pas les moyens, pour 20 balles, il y a les livres de Christine Angot qui sont encore disponibles.
Non, Et la dernière,
pour échapper à son prêt étudiant, un Américain s'est réfugié dans la jungle indienne et il s'est compliqué la vie parce que franchement, s'il n'a pas envie de rendre l'argent, il suffit d'habiter en Sablé-sur-Sarthe. Et oui, j'ai bloqué, j'ai voulu dire en Sarthe, j'ai bloqué, vous avez compris, c'était drôle, mais je l'ai mal dit. Voilà, vous la referez chez vous à vos enfants.
J'ai l'impression que vous faites un peu le lit du fascisme. Hein, dans cette blague.
Patrick Bruel est avec nous dans Par Jupiter. Il est 17h24 à Paris. Il est 3h24 à Poum. C'est en
Nouvelle-Calédonie. Évidemment.
C'est au nord de Koumak.
Oui.
Exactement. Voilà. Donc les gens ne nous écoutent pas parce qu'ils dorment. Sauf peut-être Édouard Philippe qui est là-bas, qui est en jet lag. Donc Doudou, si tu nous écoutes, on va traiter ce sujet avec toi. 30 ans qu'ils attendaient ce référendum sur l'indépendance et ils ont choisi de rester en France. Les Néo-Calédoniens ont dit non à l'indépendance pour l'instant, car deux autres votes peuvent être organisés dans les années à venir. En attendant, Nouméa, c'est la France, monsieur.
Moi, monsieur, j'ai fait l'Apollo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie.
On m'a dit que c'est un personnage.
Autant béni des colonies, les guerriers marchent.
C'est Michel.
On l'aime, Michel.
Voilà. Allez.
Ça lui fait un petit peu de droit à SACEM, comme ça. Hop, il va voir France Inter. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il va voir France Inter, le temps béni des colonies. Ah oui.
Patrick Bruel est avec nous. Alors, Patrick Bruel, parmi les centaines de milliers de questions dans les milliers d'interviews que vous avez déjà accordées, est-ce qu'on vous a déjà posé des questions sur la Nouvelle-Calédonie?
Pas souvent, non.
C'est maintenant
que ça se joue. Grosse carte à
jouer pour les dates à Nouméa, qu'on a beaucoup de difficultés à sortir.
J'ai chanté à Nouméa il y a pas mal d'années, oui, absolument.
Dans les années 90,
j'ai fait 5 concerts à Nouméa, c'était absolument dingue.
Ah ouais? Ouais, qu'est-ce que ça va être particulier?
Vous êtes très chaud, exactement. Non, je joue au tennis tous les après-midi sous 50 degrés. Après, j'allais faire des concerts. Non, c'était vraiment très agréable. Très sympa.
Et ils nous écoutent, on est la matinale en fait de là-bas.
Ouais.
À 3h40?
Bah non, avec le décalage en fait, on est.
Mais on t'a dit qu'il était 3h40 à Poum.
C'est vrai qu'elle l'a dit. Mais on est rediffusé à minuit.
Tu l'écoutes pas? On est rediffusé à minuit, ouais, c'est ça.
Alors, tu fais le lit du fascisme.
Il est 10h de plus à Nouméa si mes calculs sont bons. Si je me trompe, hashtag par Jupiter sur Twitter. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous a interpellé, Patrick Bruel? Parce que pour nous, alors en tant que Belges, nous on a perdu nos colonies, qui n'étaient pas nombreuses, qui étaient grandes.
C'était grande, hein, pour le coup.
Mais voilà, il y a 165 ans, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie, qui a fait une colonie pénitentiaire, etc. Aujourd'hui, il y a un référendum, 80% de taux de participation. J'imagine que c'est un sujet qui vous a quand même interpellé, que vous avez regardé avec un peu d'intérêt.
Donc je vais vous dire oui, forcément.
On
risque de vous décevoir.
Non, vous pouvez dire
il y a deux heures
non.
d'émission là-dessus, hein, Patrick. Donc,
non, je pensais pas que l'indépendance l'emporterait, mais mm-hmm. je suis surpris du taux plus élevé que prévu du oui à l'indépendance.
C'est surtout
oui,
en France, mais, c'est beaucoup.
Mais bon, non, moi ça me confirme que Michel Rocard a fait un travail assez extraordinaire
oui,
là-bas.
Car on lui doit les accords de Matignon.
De Nouméa,
ceux qui arrivent 10 ans après. Ouais,
exactement. Et voilà, son image est très très forte.
Et quand vous êtes allé là-bas, vous avez ressenti cette espèce de séparation potentielle là-bas, sur place? Ou c'est quelque chose que vous avez l'impression d'être absolument en France?
Mais c'était en 91. Ouais. Donc on était très peu de temps après. Ouais. après
Accord
ça.
De Matignon 88 et Nouméa 98. Voilà. Si je
donc c'était oui, il y a toujours une forme de tension, mais je vais pas faire semblant de m'exprimer sur un sujet que je connais pas suffisamment bien, parce que je maîtrise pas ça, je le connais pas bien le sujet.
En revanche, Michel Rocard, vous l'avez connu?
Je l'ai connu, c'est lui qui m'a même présenté Guy Carcassonne, à qui je rends hommage dans cet
oui,
album.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui, exactement, qui était votre grand ami. Et quel souvenir vous avez de Michel Rocard?
Merveilleux, un homme d'ouverture, un homme qui avait une distance sur les choses, un Européen convaincu. Un humaniste, quelqu'un qui a fait du bien à la France, qui a fait du bien à la République, pendant son quinquennat, mais au moment où il est aux manettes, la France ne se porte pas trop mal.
Quelque chose à ajouter autour de cette table sur ce sujet, la Nouvelle-Calédonie?
Non, mais vous l'avez rappelé en début en présentant le sujet, c'est-à-dire que les Kanaks sont ultra minoritaires, donc de toute façon le référendum, il était un peu connu d'avance, quoi.
Ouais. Oui,
et c'est assez particulier. Moi, j'ai été jouer là-bas l'année dernière.
Ouais.
Et il y a trois populations qui se mélangent pas du tout, quoi. Les Kanaks, donc, qui sont originaires de cette terre-là. Les oreilles. Alors, ils appellent les oreilles, c'est les gens qui viennent, les blancs qui sont arrivés, qui viennent pour bosser, etc., etc.
Mm-hmm. Et dans toutes les...
Voilà, les Antilles, c'est pareil. Et il y a les Caldoches. Les Caldoches, c'est les descendants de prisonniers politiques, parce qu'à la base, la Nouvelle-Calédonie, c'était là où on déportait en fait les prisonniers politiques.
Exactement.
Louise
pour
Michel
blanchir
a été
l'île.
Voilà. Mmh. Et donc ils leur ont filé un bout de terrain pour blanchir l'île et pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et donc ils appellent ça les Caldoches. Donc c'est très particulier parce que c'est vraiment trois populations qui se mélangent vraiment pas du tout, quoi. Et évidemment, les Kanaks sont les plus pauvres, évidemment.
Ouais. On salue nos auditeurs là-bas. Si on a dit des conneries, vous n'hésitez pas, même au réveil, hein, si vous écoutez le podcast.
N'hésitez pas à nous dire quelles conneries on a dites.
Oui, on se corrige.
Vous avez vu, je me suis pas trop avancé.
Non, vous avez été parfait sur ce sujet. On sent le pro, quand même.
En revenons à la musique de Patrick Bruel avec André Manoukian.
Patrick Bruel, c'est Vladimir Jankélévitch qui en parle le mieux. Janké, pour ses élèves, était ce génial prof de philo à la Sorbonne qui avait la voix de Claude Pieplu, le papa des Shadocks. Janké, qui fut interdit d'enseigner sous l'occupation au nom des lois anti-juives et qui, arrivé à l'âge de la retraite, s'est vu obligé d'exercer 5 années supplémentaires pour rattraper ses points. La beauté de l'administration française, toujours prête à débusquer les tirs au flanc. Bon, et comme ça l'a énervé, Janké, qu'est-ce qu'il a fait? Ces 5 dernières années à la Sorbonne, il a décidé de faire des cours sur son chat. Et c'était, c'est vrai, et c'était selon ses étudiants génial, une vraie régalade, comme quoi quand on est bon, le sujet importe peu, c'est ce qu'on en fait qui compte. Mis à part son chat, Janké était un des rares philosophes à s'intéresser à la musique. Parce qu'en réalité, Patrick, les philosophes n'aiment pas la musique. Ils s'en méfient comme de la peste. Songez, c'est quoi le boulot d'un philosophe? C'est de rationaliser le merdier dans lequel on vit. C'est de tâcher, avec la raison, d'avoir une représentation claire des forces chaotiques qui nous gouvernent la tête. Le chaos dans la tête des gens, ça, vous connaissez Guillaume Meurice, vous qui tous les jours accouchez la connerie des humains, ce qui fait de vous le premier philosophe proctolo-socratique du XXIe siècle.
Je vais le mettre sur mon CV, c'est pas mal ça. Ouais.
Le boulot du philosophe, c'est de nous débarrasser de nos affects, de nos émotions pour y voir plus clair. Eh ben, le philosophe, il peut pas aimer la musique puisqu'elle produit des affects. affecte. Platon disait d'elle qu'elle ramollit les hommes. Il n'est qu'à voir la tête d'un dictateur sud-américain quand Céline Dion chante. Il pleure. Quelle honte. Oui, Patrick, il est temps de dénoncer l'influence néfaste que vous exercez sur nos nerfs et de méditer sur cette question que pose Jean Kelevitch dans La musique et l'ineffable. Je vous le conseille à tous. La musique et l'ineffable. La question, le charme que la musique exerce, est-il une imposture ou le principe d'une sagesse ? Waouh ! Quand vous chantez, voilà ce qui se passe, Patrick.
Mais il parle pas de chanson, hein. Il parle de musique.
Il parle de musique.
Parce que la chanson, il y a les mots, donc le philosophe se retrouve.
Ah.
Et bam,
allez, une chronique foutue en l'air. Merci,
on
bonsoir.
On engage Patrick Bruel comme chroniqueur.
Voilà. Quand même, quand vous chantez, voilà ce qui se passe, Patrick. Selon les philosophes, hein, vous agissez sur le système nerveux de ceux qui vous écoutent et même sur leur fonction vitale. Vous pénétrez à l'intérieur des âmes et vous vous en emparez de la façon la plus énergique, nous dit encore Platon. Celui ou celle qui vous écoute n'est plus lui-même. Elle, est tout entier tuyau sonore, comme une corde vibrante qui frissonne à l'unisson de votre glotte. Comme Apollon remplit la poitrine de la pitié, la voix de Patrick prend possession de l'auditrice. Voilà ce que dit Jean-Ké encore. Le sage convainc avec la raison, mais le mage, l'enchanteur, subjugue, suggère, asservi par la puissance d'une chanson. La modulation musicale est un acte qui peut influencer un être. Est-ce que vous pensez à la responsabilité que vous avez, Patrick ?
Elle est totale.
Vous êtes comme une femme qui persuade par le seul parfum de sa présence, par l'exhalaison magique de son être. Vous jouez avec des enchantements périlleux qu'il est temps de réglementer. Les sirènes retardent Ulysse qui veut rentrer chez sa femme. Les muses inspirent le poète. Patrick ? Êtes-vous une muse ou une sirène ? Patrick, doit-on encore craindre votre charme ? Cave Carmen, ça veut dire craint le charme en latin. On devrait prévenir les gens à votre écoute. Patrick, ou dois-je vous appeler Carmen ? Oui, votre charme agit toujours. Vous êtes plus dangereux que jamais. Est-ce cette éternelle voix d'adolescent, entre le rire et le sanglot, ces questions que vous posez, ces scènes de la vie quotidienne que vous déclinez sur une ritournelle bien sentie dans lesquelles on se reconnaît et qui tendent nos petits bobos vers l'universel, l'espace d'un instant, d'un presque rien, où l'on s'est amenuisié pour aimer et dont il reste un je ne sais quoi qui traîne dans l'atmosphère, comme un charme et rien ne sera plus comme avant. C'était Jean Kelevitch qui parlait de la musique. Mais ça va tellement bien, Patrick Bruel. Et maintenant, on écoute Héros.
Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne, ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé, qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire. À tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes. À tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, mort de les avoir chanté trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité, effacés par l'humilité, effacés par l'humilité. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis enfin aussi à toi, qui fait tant et qu'on ne voit pas, à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne. Hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su.
Héros, un extrait du nouvel album de Patrick Bruel qui s'intitule Ce soir on sort. Et le final de cette chanson,
oui,
en instrumental.
Ça repart en instrumental, c'est dans un rythme un peu de trap, justement. Mm-hmm. C'est la réunion de plusieurs styles, de plusieurs époques.
Dans les autres styles de votre album, y a un côté, vous disiez tout à l'heure, un peu urbain aussi. Vous habitez en partie à Los Angeles. Vous écoutez la radio là-bas et vous êtes imprégné d'autres sons qui vous ont peut-être influencé aussi un peu ou pas?
Je suis constamment sur 105.9, sur 102.3, qui sont les deux radios hip-hop de
ah
LA.
Il
y a évidemment les radios rock, les radios blues, un peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'on est vraiment baigné au milieu de l'urbain là-bas. Mmh. Beaucoup, beaucoup. En France aussi, on écoute pas mal. Mais c'est vrai que là-bas, ça c'est partout, que ce soit les magasins, que ce soit la rue, que ce soit... parce que c'est riche, parce que c'est très vaste. Le hip-hop est une culture très très vaste. Il y a en termes de créativité, il se passe des choses extraordinaires.
Patrick Bruel avec nous, il est en tournée dans toute la France le 6 décembre 2000.
19.
Oh, 19.
Ah oui.
Vous serez à Paris à la Défense Arena. Et en attendant, vous êtes en tournée dans toute la France, notamment à Châteauroux, Limoges ou Boulazac en avril. Et Orléans, au Zénith d'Orléans.
Ça,
c'est complet, c'est ça?
Ouais.
Orléans, oui, on en fait une autre.
Boulazac, c'est le 5 avril. Alors préparez-vous. Vous prenez le ticket de train déjà, je sais pas. Mais... Patrick Bruel avec nous et à côté, il y a Guillaume Meurice.
Oui, bah écoutez, on part une semaine et c'est le bordel. On perd Philippe Gildas, on gagne Bolsonaro. Pour sauver la planète, on peut toujours compter que sur François de Rugy. En plus de ça, Thierry Ardisson fait des bonnes audiences. Il n'y a rien qui va dans ce pays.
Il s'entend bien.
Franchement, si Dieu a vraiment créé l'homme à son image, il doit bien puer de la gueule, Pépé. Alors, j'avais besoin de retrouver un peu d'insouciance pour la reprise. J'avais besoin de me rapprocher de l'enfance. Alors, rassurez-vous, je ne prépare pas un album avec Jean-Luc Lahaye, ni une émission avec Morandini. Non, je parle d'insouciance qui reste dans le cadre de la loi. Alors, je vais aller voir le monde de demain à travers les jeux et les jouets des gosses, puisqu'il y avait un grand rendez-vous sur le thème Porte de Versailles. Et la Startup Nation, évidemment, a pensé à l'avenir de nos enfants en créant de nouveaux jouets.
C'est un robot qu'on peut séparer en deux morceaux afin de préserver la partie la plus importante, le cerveau, qu'on pourrait ainsi plugger, mettre. Par exemple, je dis au robot, voilà, fais un tour de tête complet. Hop là.
D'accord, c'est une sorte d'ami des enfants virtuels.
Un compagnon émotionnel programmable.
Oui, pardon, excusez-moi. Un compagnon émotionnel programmable, bien évidemment, au même titre qu'un Lego est un processus d'élaboration passionnelle. ça paraît un peu froid comme ça, mais bon, c'est toujours moins froid que la pédagogie Véronique Courgeot. Il y a d'autres jouets Startup Nation, notamment une montre connectée qui se recharge avec l'énergie de l'enfant. Ça, c'est très malin. Une entreprise de quel pays?
On est une société française.
Vous allez la fabriquer en France?
Alors, elle est créée en France. Après, l'usine n'est pas forcément en France. Parce que
où est-ce qu'elle est, cette usine?
En Chine.
Ah. Remarquez, ça fait travailler les enfants aussi.
Oui. Après, le but, c'est plus de les inciter à faire du sport, d'être en bonne santé, que de les exploiter. Du coup, on est.
Oui, mais ça leur fait dépenser l'énergie aussi de les exploiter.
Oui, on peut voir ça comme ça.
Ouais, ouais, ça fait bouger les enfants de part et d'autre de la chaîne de production, de la matière première à la consommation. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal vu. Alors, il y a d'autres choses bien vues. Il y a également Petit Ours Brun. Vous vous rappelez de Petit Ours Brun, hein, que tout le monde connaît. Alors, c'est aussi le surnom de Dédé dans les couloirs, mais là, je vous parle vraiment des aventures de Petit Ours Brun. Et on se rappelle tous le papa Petit Ours Brun qui lit le journal en fumant la pipe pendant que maman Petit Ours Brun est à la cuisine. Hein, on se souvient que le petit Eric Zemmour a toute la collection. Alors, est-ce que ça a changé?
On essaye de faire évoluer les choses, donc maman travaille.
Ah, ça y est, elle bosse là?
Oui, ça y est, maman travaille.
Elle bosse dans quoi, la maman Petit Ours Brun?
On spécifie pas dans quel domaine il travaille, mais ses parents travaillent.
Bon, il y a du mieux. Maman Ours Brun aussi a le droit de se faire exploiter en étant payé 30% de moins que papa Ours Brun à compétences égales. Bon, ça c'est pas marqué dans le bouquin, mais on est là quand même pour préparer les enfants à la réalité. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait un stand de la police nationale de ce grand rendez-vous des jouets avec des ateliers très ludiques, notamment le GTPI, les gestes techniques de protection et d'intervention.
Le GTPI, c'est la façon de menotter.
Vous apprenez aux gamins à mettre des menottes?
On apprend effectivement comment expliquer la façon dont les policiers mettent les menottes pour entraver la liberté d'une personne qui a fait des bêtises, quoi.
Et voilà, un petit cours de menottage, c'est toujours plaisir. Alors, c'est pour les enfants, hein, je vous vois venir, Alex.
Oui, oui,
je sais que vous utilisez les menottes quand vous faites chez vous les soirées fouilles au corps, hein, dans le quartier sensible. C'est complètement autre chose, hein. On est sur un autre délire. Là, on parle bien d'apprendre aux enfants les gestes de la police et même les gestes pour devenir CRS.
On les met en situation, on leur met un casque. Alors, on adapte ça forcément à la façon, une façon ludique.
Donc, ils ont un petit casque de CRS.
Ouais, ils ont un petit casque, un petit casque assez allégé, on va dire. Un petit plastron de protection. On leur fait faire un tout petit parcours un peu pour faire monter un peu la pression, un peu monter le cardio. Et à la fin, on leur fait mettre des petits coups de matraque pour les défouler.
Il y a un petit tour de matraquage à la fin. Là.
C'est un petit aspect sportif de l'atelier.
Et voilà. Ça, c'est à nouveau mai 68. Bah, les gamins, ils sauront de quel côté de la barricade se placer. Ça, c'est important.
C'est
d'ailleurs, les enfants, si vous ratez vos études, vous pouvez faire CRS, hein, et matraquer les étudiants pour vous venger. Voilà. Si vous voulez de l'argent, par exemple, faites-le avec de l'argent public. Hein, c'est ce qui fait la différence entre un délinquant et un politique. Voilà. Faut tout expliquer aux enfants. On est là pour ça. Et pour ça, d'ailleurs, pour voler l'argent, il y a même un Monopoly spécial. Explication.
C'est un Monopoly pour, comment dire, répondre à toutes les attentes de tous les joueurs de Monopoly depuis 80 ans.
C'est-à-dire ?
On peut tricher. C'est recommandé de tricher.
Donc on peut se mettre de l'argent dans les poches discrètes, comment on fait,
ouais, pour... On peut aller au pire, on peut piquer celle des autres aussi.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer contre Patrick Balkany, quoi, parce qu'il gagne tout le temps.
Je vous laisse libre à vos propos.
Il ne veut pas perdre des parts de marché à Levallois-Perret, mais voilà, c'est vrai que je suis libre de le dire comme Balkany, hein, comme de la chanson, il est libre, patoche. Il y en a quand même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Mais il est libre. Et puis je vais vous dire, on s'en fout de tricher. C'est ça qui est important d'apprendre aux enfants. Remarque, je crois qu'ils sont déjà au courant.
Ouais, mais on est content puisqu'on a gagné, on peut dire qu'on a gagné.
Mais pourquoi alors ?
Parce qu'on a gagné.
T'es content d'avoir gagné parce que t'es content d'avoir gagné ?
Ouais. Quand tu te sens fier, t'es content, tu...
Gagner, ça veut dire faire perdre les autres. Est-ce qu'on peut être fier de faire perdre les autres ?
Ouais.
Ouais, c'est ça, chiant. On s'en fout, c'est le monde de la compétition, c'est comme ça, c'est l'avenir, En Marche ou Crève. Et c'est vrai que quand on regarde Bolsonaro, Ardisson ou De Rugy, on se dit que l'avenir, ça ressemble quand même pas mal au passé.
Guillaume Meurice, merci pour tous les risques que vous prenez sur le terrain. 17h43 sur France Inter, Patrick Bruel est avec nous. Et on a trouvé ce sujet sociétal assez amusant dans l'Express cette semaine. Dans les quartiers chics, certains parents recherchent des nounous surdiplômés. Rien de tel qu'un futur énarque, pense-t-il, pour stimuler l'éveil de l'enfant. Tandis que le futur énarque préfère, lui, lire des histoires aux mioches plutôt que d'aller travailler au McDo, ce qui est compréhensible. L'avantage du babysitter qui a du plomb dans la tête, c'est qu'avant de lui laisser vos enfants, vous pouvez débattre.
Vous avez des légumes et des fruits en suffisance ?
Oui, on lui donne pas de légumes ni de fruits, on lui donne du lait et des céréales, et c'est tout pour l'instant.
Dès 3 mois, on peut commencer une alimentation normale et variée.
Oui, ben ça c'est des conneries.
Ah oui.
On nourrit pas un bébé comme un adulte.
Et comment savez-vous tout ça ?
J'ai lu des bouquins. L'alimentation que donnent les pédiatres de maintenant, c'est beaucoup trop fort. Moi, je suis pour les médecines douces, Madame Ponrat.
Rapon, Madame Rapon.
Oui.
Je vous répète que je ne discuterai pas sur ce terrain avec vous. Je suis diplômée. J'applique les méthodes prônées par les plus grands pédiatres. La médecine est une chose sérieuse.
Vous avez jamais entendu la chanson qui dit la médecine est une putain, son Macron c'est le pharmacien ?
Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra.
Madame Napron, si vous restez une minute de plus dans cette maison, je vous casse la gueule. Je suis ici chez moi, barrez-vous.
Rapon.
Vous avez reconnu Patrick Bruel le film, non ? C'est Trois hommes et un couffin, c'était Dominique Lavanant et Roland Giraud dans le film de Colin Serrault.
Alors... J'ai cru que c'était un sketch que vous aviez enregistré.
Ah,
tout
ça me fait plaisir.
Oui, alors, on est très flattés.
On le prend très bien.
Moi, c'était Roland Giraud alors. Non,
je pense que oui.
Ouais,
celle qui gueule et qui est fâchée, oui, c'est ça.
Alors, on se demandait, vous avez des enfants qui sont un peu grands maintenant, ils n'ont plus besoin de nounous, je pense.
Non, ça c'est clair, mais j'ai toujours eu plaisir à avoir des nounous qui en plus pouvaient un peu les éveiller, oui.
Ouais.
Que ce soit linguistiquement ou travailler ensemble.
C'est-à-dire que parler une autre langue est un atout.
Ça a été un atout pour mes enfants. Ils ont toujours eu des nounous anglo-saxonnes. Mm-hmm. Donc quand ils sont arrivés aux États-Unis, déjà ils étaient déjà bilingues. Mais au-delà de ça, oui, en effet, un peu d'éveil. On a besoin de bac plus 5 pour.
Ici, il y a des cas.
Faut pas non plus déconner.
Ici, il y a des cas un peu extrêmes.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que quelqu'un qui s'occupe d'un enfant, s'il peut en plus s'en occuper. Faire regarder les devoirs, faire des choses, faire des jeux d'éveil, s'amuser, voilà, parler, avancer, être s'intéresser aussi à ce qu'elle leur donne à manger à 4 heures, c'est pas mal.
Oui.
Je suis pas contre, quoi.
Vous comprenez pas mal ma question, mais vous castiez les nounous pour vos enfants? C'est-à-dire que vous demandiez des CV,
des questionnaires de culture.
Mais c'est évident. Bah ouais. Mais c'est évident que tu castes des nounous pour tes enfants. Tu vas pas laisser tes enfants à quelqu'un sur qui tu n'as pas un minimum de renseignements, un minimum de contrôle. Ça, c'est
C'est impensable. Il y a les gens qui vont beaucoup plus loin, qui mettent des caméras dans les doudous. Oui. Donc,
non, oui. Ici, l'article de l'Express relate des cas un peu plus extrêmes où les enfants sont en très très bas âge et ils veulent quand même des énarques ou des gentils.
Là, on marche sur la tête, c'est autre chose.
Voilà, il y a un petit souci d'élitisme peut-être dans cette recherche à outrance.
Ridicule.
Juliette Arnaud.
Oui.
Dites donc si on parlait un peu littérature.
Oui, d'autant qu'aujourd'hui, on va bien rigoler.
Ah,
bah oui, puisqu'aujourd'hui, un livre qui a pour toile de fond. Deux points, ouvrez les guillemets. La science de l'enfer qui ramène tout au sexe. Alors, cette science n'est évidemment pas la physique quantique ou l'épistémologie. C'est la psychanalyse.
Sauf que,
vu qu'on va se pencher sur la vie et l'œuvre d'une femme psychanalyste dans les jeunes années de la psychanalyse, c'est-à-dire le début du 20e, on va directement tomber sur un loup. Ah oui, parce que Freud, qui est le papa de cette grande affaire qu'est la psychanalyse, est aussi le papa de phrases qui font plaisir, comme « l'anatomie et le destin des femmes ». Merci beaucoup, Sigmund. Avant Sabina Spielrein, qui est cette femme psychanalyste dont je vais vous entreprendre aujourd'hui, au sujet de laquelle je vais vous entreprendre, je cite l'auteur, « la psychanalyse de 1913 ne regarde le féminin qu'à travers sa fonction reproductrice, et même après, souvent. D'autant que Sabina Spielrein, c'est pas le premier nom qui te vient quand tu penses à la psychanalyse. Analyse qui te vient, c'est Freud, donc, ou Jung, ou Lacan. Oh, c'est rigolo que des hommes. Ou Docteur Zinzin, mais ça, c'est si t'es moi, et que dans ton petit intérieur, tu surnommes ainsi ton praticien. C'est peut-être parce que Sabina est arrivée de loin, très loin. Elle est arrivée de très loin, même, elle est arrivée de Russie. Et elle arrive mineure dans un asile psychiatrique, dans un état qui est qualifié de grave état hystérique. Alors, Sabina, elle a été élevée donc en Russie, à Rostov, dans une fratrie. Il y a une petite sœur qui est morte, que des frangins qui restent. Ils ont été élevée par des parents brillants et en avance sur leur époque, mais violents aussi. Donc quand elle arrive en Suisse, elle est vraiment pas très très bien. Et là, elle rencontre Carl Jung, qui va la soigner. Et Sabina va guérir. Et Sabina va tomber amoureuse du beau, brillant, sauveur, docteur. C'est normal, c'est le transfert. Ça marche avec tout le monde, sauf moi et le docteur Zinzin. Il a des pellicules. Et Sabina est suffisamment guérie pour entreprendre des études de médecine. Et les réussir. Et elle choisit comme spécialité la psychanalyse. Boum ! Conte de fées. Quoi ? Ah oui, flûte. Le livre s'appelle « La vie dérobée » de Sabina Spielrein. Alors qui lui a dérobé sa vie à Sabina ? C'est le beau docteur arien et déjà marié ? Il n'y a pas forcément de rapport. Est-ce Freud qui, sans ses travaux à Sabina, n'aurait pas mis le doigt sur une des bases de son œuvre à lui ? La pulsion de mort dont Sabina explique qu'elle est antérieure à celle de la vie. Vous savez, ce célèbre combat, Eros et Thanatos. Sont-ce les communistes ? Parce que Sabina revient en Russie après la Révolution, la foi dans le cœur, prête à soigner les communistes. T'en veux de la pulsion de mort ? En voilà, ses trois frères mis à mort par les purges staliniennes pour activité contre-révolutionnaire. Et comme si tout ça n'y suffisait pas, voilà les nazis qui pointent leur nez. Ah oui, je vous l'avais pas dit, Sabina, elle est juive. Et Sabina, qui a fait ses études et ses premières années de psychanalyste entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, eh ben elle peut pas croire que les Allemands, ce peuple de lettrés, ce peuple de musiciens, ce peuple de scientifiques, elle peut pas croire que les Allemands soient pires que les Russes, qui, après tout, ont inventé le pogrom, le mot et l'usage. Alors elle et ses deux filles monteront dans le camion qui les emmènera à leur mort atroce, les leurs, et puis parmi des milliers d'autres. Et quand on parle encore de nos jours de Sabina Spielrein, c'est toujours pour raconter ses crises d'hystérie ou son triangle amical et amoureux entre Jung, le beau docteur, et Freud. Parce que ce sont pas toujours les plus méritantes dont l'histoire avec un grand H se souvient ou célèbre. Vous savez, ceux qui, comme dans la chanson d'Anne Sylvestre, les gens qui doutent, ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire ne leur rende les honneurs. Heureusement, Violaine Gély est là avec ce livre. Et comme elle est psychopraticienne et journaliste, ce bouquin, il est à la fois documenté et passionnant. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, vous pouvez nous rappeler les références du livre ?
Ça s'appelle « La vie dérobée » de Sabina Spielrein. C'est écrit par Violaine Gély et c'est chez Fayard.
Merci beaucoup, ça donne très très envie de le lire.
Très envie,
Patrick.
Vous en parlez très bien.
Ouais, merci.
Juliette Arnaud, on va profiter de votre présence, Patrick Bruel, pour reparler chanson française avec vous. Une école de la chanson française vient d'ouvrir ses portes. Elle propose à des jeunes d'entretenir et de transmettre ce patrimoine et de faire entrer les anciennes chansons françaises dans le monde contemporain. Alors, ça va du Moyen-Âge jusqu'aux années 90. C'est-à-dire les débarrasser du côté nostalgique et les faire entrer dans l'instant. Les chansons de Brassens, par exemple, dont voici l'une des plus fameuses.
Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal.
Bien, les résultats de cette école sont fulgurants. La pompe moderne, un groupe qui reprend des chansons version Brassens, c'est en chouette. Réalité.
Version, c'est... enfin, des, voilà.
Enfin, avec la voix, avec l'imitation de Georges Brassens. Alors, voilà, cette école, c'est le Théâtre École des Répertoires de la Chanson qui vient d'ouvrir. Bon, alors, la première promotion, le parrain, ça devait être Charles Aznavour, malheureusement. C'est une école qui est un peu l'anti-télécrochet, qui forme des jeunes chanteurs sur 2 années. Ils entrent sur concours, ils sont une vingtaine. Et l'idée, c'est d'apprendre l'interprétation et d'entretenir ce patrimoine de la chanson française.
Très bien, mais le problème, c'est que l'axiome de départ est un peu compliqué avec ce que vous avez fait, parce que vous avez passé, parce qu'on comprend pas l'histoire de la chanson de la compagnie créole avec la voix de Brassens. Je comprends pas. L'école, c'est une parodie que vous faites, vous, ça.
Oui,
qui n'a rien à voir avec l'école.
Oui.
J'essaie de prendre la défense de cette école.
Moi aussi, je vais le faire.
Qui, à mon avis, fait pas ça.
Non, mais bien sûr.
L'idée de visiblement, de dépoussiérer un petit peu le répertoire, le ramener à nos jours et donner une couleur à ces chansons pour montrer leur intemporalité, ça peut être intéressant. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec l'album des années 30.
C'est ce que j'allais vous dire, ouais, exactement.
Barbara aussi, parce que je pense que vous l'avez ramenée dans les oreilles de pas mal de gens.
Et de gens qui ne la connaissaient pas aussi. Bien sûr.
Et les élèves étudient.
Vous interrompu, pardon.
Ah,
ça ne se reproduira plus.
C'est vous qu'on a envie d'entendre. Les élèves étudient notamment la dramaturgie des chansons aussi pour les interpréter. Les professeurs, il y a notamment Anne Sylvestre qui donne cours, se rendent compte que parfois les textes sont pas toujours compris. Par exemple, Comme toi de Jean-Jacques Goldman, apparemment une partie du public n'aurait pas compris que ça parlerait de la Shoah. Faut déjà se débrouiller pour pas comprendre, mais bon.
Vous l'écoutez surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut le marmonner, mais si vous voulez.
Et les élèves étudient la dramaturgie des chansons aussi pour les interpréter. Est-ce qu'il y a une dramaturgie dans certaines de vos chansons, Patrick Bruel ?
Quasiment toutes, puisqu'elles sont très autobiographiques et très souvent construites comme des petits films. Donc, en effet, je me suis toujours...
Il y a du suspense, Place des Grands Hommes, combien seront là ? 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, aujourd'hui, on ne sait toujours pas.
Mais c'est un film. C'est un film, absolument.
Il y a Anne Sylvestre donne cours, mais par exemple, vous, ça vous dirait d'y participer, d'y faire, je sais pas, une masterclass, si
oui, bien sûr, avec plaisir.
Et avec peut-être quel texte ou qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre et d'enseigner ?
Vous parliez de Brassens, j'ai fait quand j'avais 14 ans à Henri IV, j'avais fait un exposé sur Brassens, j'avais eu les 4 heures de cours du samedi matin dans l'amphi pour présenter à tous les élèves de 3e Brassens. Et c'était merveilleux d'expliquer Brassens à tout le monde et aux enfants aujourd'hui, aux artistes, aux auteurs, aux compositeurs, expliquer que Brassens, comme on l'entend souvent... plus grande bêtise du monde, que toutes les chansons de Brassens se ressemblent, parce qu'il a choisi justement un mode musical, mais qui est tellement vaste et tellement, tellement riche. Et puis en termes d'écriture, c'est une leçon. Enfin bon, voilà, Brassens, comme j'avais fait ce que vous dites à l'EJM, à l'école où mes enfants étaient en France, à Génie Manuel, j'étais allé un matin comme ça, avec une guitare, leur parler de Bob Dylan. Je leur avais fait écouter des chansons de Dylan, ils avaient entre 5 et 6 ans. Et par la suite, la maîtresse m'a dit que ça avait fait son chemin, que voilà, enfin c'était très agréable. Oui. J'aime beaucoup l'idée de ça.
Voilà
de
ce beau projet, un article que nous avons trouvé dans le Monde, paru ce week-end, à l'école de la chanson française, avec ce centre de formation qui a ouvert ses portes à Paris. Alex Vizorek, vous avez un rôle à proposer à Patrick Bruel.
En fin d'émission, on propose toujours un sketch à l'invité. Il découvre son rôle pour jouer avec nous.
Nous aussi. Hein.
Et on s'est dit, voilà un rôle peut-être
que vous n'avez. Carrière s'arrête.
Non, tout s'est bien passé pour tout le monde jusque là. Je me suis dit, on va prendre un risque avec Patrick Bruel, on va lui donner un rôle qu'il n'aura jamais travaillé de sa vie, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah oui, voilà, je sentais qu'il n'allait pas travailler parce qu'il aimerait bien se présenter aux Européennes. Marine, sa fille, jouée par Charline, n'a pas très envie. Le beau-fils, Louis Alliot, c'est Guillaume Meurice. On se rend à l'EHPAD pour voir s'il si va réussir à les convaincre.
Alors on joue les...
Ouais.
Oui, papa, tu voulais me voir.
Toi, oui, mais lui...
Ah bah, toujours aussi sympa, le monocle.
Papa, c'est ton gendre, tu dois l'accepter, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux ?
Alors, j'ai mûrement réfléchi...
Aïe, 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 mais pourquoi tu fais ça ?
Je veux être candidat aux Européennes.
Non, papa, j'ai dit non.
Pourquoi tous les copains sont là, tous les copains là les
Non, pas d'homophobie, non.
Bah moi ça m'arrange qu'elles soient entourées de tafiole, hein, parce que
ah, c'est la meilleure ça. Pourquoi lui il peut alors?
Ça m'a échappé, c'est amical. Oui.
Papa, tu es un peu vieux maintenant.
Quelle indignité.
Non mais sérieusement.
Tu vois, parfois j'ai envie Bouteflika. Lui au moins, il a pas une fille comme toi.
Ah, putain, il va pas bien, hein.
C'est vrai ça, papa. Tu vas pas te comparer à un arabe quand même.
Bah si. Alors pourquoi Bouteflika pourrait se présenter aux Européennes et pas moi?
Bah ça y est, il perd la tête.
Mais non, papa, il se présente en Algérie.
Eh ben oui, c'est une circonscription française que je sache.
Voilà, elle a complètement perdu, hein.
Bonjour.
Oh putain, il manquait plus que lui.
Bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Ah,
cher Jean-Marie, si vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez venir à Debout la France.
Ah, il est pas prêt de se lever, hein.
Non, je vais être candidat du Front National.
Le Rassemblement National.
Non mais laisse tomber, je te dis, il a complètement perdu la tête. Oh.
Papa, tu es très bien ici à l'EHPAD, les gens sont très gentils avec toi.
Je suis en pleine forme, hier encore j'ai coursé un rouquin.
Ok, Marie, non, on peut pas, en plus on n'aura jamais le budget pour gérer sa campagne.
Oui, papa, tu te rends pas compte, pour ta campagne, il te faudra un auxiliaire de vie, une infirmière, un médecin, c'est vraiment trop contraignant.
Vous avez dit Dupont-Aignan?
Non, Nicolas. Non.
Allez, oh, bonne journée à tous, on a rendez-vous au PMU là. Allez.
Vous jouez aux courses?
Non, on écrit le programme pour les Européennes. Ah,
bon. Mais tu peux pas me trahir comme ça, Marine, je suis ton père quand même.
Papa, on ne peut plus rien te confier.
Marion me manque.
Non, t'as dit quoi?
Non, rien.
Écoute, papa, t'as fait ton temps, on ne travaillera plus ensemble, c'est terminé.
Alors on va se quitter comme ça.
Oh putain, là il va vraiment très mal là.
Ah, si c'est ma chanteuse du Patrick Bruel, on est foutu.
Non, Ben Guigui, ce jeune chiot.
Merci.
C'est ça qu'il avait dit. Un chiot mal lavé, il avait dit.
Mais non.
Ah ouais.
C'est alors, un compliment.
Il n'y a pas l'air de ma morte avec moi. Genre.
Patrick Bruel, merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci
à vous.
Je
rappelle votre album qui s'appelle Ce soir, on sort. Et toutes vos concerts à travers toute la France.
Allez-y, répétez toutes les dates.
Il y a de très nombreuses dates. Je vous incite à aller voir sur Internet. Et à Paris, le 6 décembre, à la Défense Arena.
2019.
En 2019. Oui. Voici le mot de la fin qu'on laisse à Philippe Gildas, qui rejoint aujourd'hui sa demeure. À demeure, comme on dit. On l'a reçu dès le premier mois d'existence de cette émission. Il nous avait confié que Gildas, c'était pas son vrai nom.
Faut être mégalo complètement, hein, quand on travaille à la radio, vous en savez quelque
donc
chose.
Donc vous avez changé,
vous avez changé de nom, c'est ça l'histoire.
Eh ben, j'ai pris le prénom de mon fils.
Ah, je
l'appelle Gildas, ce qui a failli l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour longtemps. Parce que quand je suis passé plus tard à la télévision, ses copains au collège lui ont dit « Mais comment tu peux t'appeler Gildas ?»